France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Les scènes de joie et les familles qui se prennent dans les bras en Israël, le très long travail studieux à venir à Sharm el-Sheikh en Égypte, ce sont les deux images du jour. Libération des otages et poursuite du plan de paix, nous en parlons avec nos deux invités ce soir. L'Espagne est sans budget depuis plus de deux ans, mais pourquoi tout le monde semble s'en accommoder? C'est la question de Frédéric Seyss qui remet le monde à l'endroit. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé la Corée du Sud qui a perdu une très grosse partie de ses archives gouvernementales. Des milliers de données parties en fumée dans un incendie. Et la BO du monde de Cyril Sauvageau avec Zach Bryan, il est chanteur country, très aimé des républicains, mais il se mobilise contre la politique migratoire de Donald Trump et il n'est pas tout seul chez les artistes. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Franchement, on n'a pas vécu pendant deux ans. On a essayé de survivre. Et là, on va pouvoir tourner la page, se reconstruire, le reconstruire à lui déjà, le rétablir et commencer notre vie normale comme avant.
Elle s'appelle Ruth Amiel, c'est la tante d'Elkana Borbot, otage israélien libéré ce matin. Bonsoir Daniel Scheck.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous depuis Tel Aviv. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et depuis deux ans, vous êtes conseiller diplomatique du Forum des familles des otages et des disparus. Ça veut dire que vous les connaissez, toutes ces familles, vous les avez accompagnées ces deux dernières années dans les moments difficiles, mais aussi les moments de joie comme aujourd'hui, même si on n'oublie pas qu'en ce jour, 20 personnes reviennent vivantes, mais qu'Israël attend aussi des morts. Dites-nous d'abord, Daniel Scheck, comment vous avez-vous vécu cette journée? On les a vus, ces rassemblements, le soulagement sur la place des otages de Tel Aviv et partout dans le pays. J'imagine que c'est tout ce pays qui vit cette journée comme une journée de libération.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ma journée a commencé en fait hier. Mm-hmm. J'ai passé, comme beaucoup d'Israéliens, la nuit place des otages et une grande partie de la journée. Honnêtement, j'aimerais maintenant prendre Ruth Amiel dans mes bras parce qu'elle était parmi les premières à militer pour Elkana Borbot et nous nous sommes rencontrés il y a déjà très longtemps lors d'un voyage que j'ai fait avec des familles d'otages à Paris au tout début de ce combat. On a vu les images de son neveu revenir et retrouver les siens, retrouver sa femme, son petit garçon. Oui, c'est une journée. Vous savez, cette place des otages, pendant ces deux dernières années, elle a, semaine après semaine, elle a débordé de monde tous les samedis soirs. Et il y avait des samedis où il y avait de l'espoir, il y avait des samedis où il y avait de la colère, il y avait de la frustration, il y avait une pensée que ça va finir dans instamment sous peu. Mais jamais je n'ai vu cette place déborder de bonheur comme pendant ces dernières heures. Parce que même quand il y a eu les libérations précédentes, tout le monde avait toujours à l'esprit qu'il reste encore des otages à Gaza.
Est-ce que votre rôle s'arrête ici symboliquement, Daniel Scheck? Est-ce que vous avez même finalement enlevé, détaché le petit ruban rouge, le jaune, que vous portez, que tout le monde portait au revers de votre veste? Est-ce que symboliquement vous l'avez enlevé ou pas?
Pas du tout. Pas du tout. Il reste 28 otages à Gaza. Ils sont morts. Ce sont des dépouilles. On peut penser que l'urgence n'est pas la même qu'avec des otages vivants, mais la signification pour les familles n'est pas moindre. Et ce sont des otages qui méritent des obsèques décentes selon le rite de leur famille. Et nous allons combattre jusqu'au retour du dernier de ces otages.
Il faut rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a quatre dépouilles qui sont revenues ou qui sont en train de revenir. Effectivement, quatre seulement et non pas effectivement 27. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi, Daniel Scheck, qui donne quelque chose d'à la fois de complexe finalement sur cette place dont vous nous parlez. À la fois, on se réjouit, mais on ne peut pas oublier les otages qui ne sont pas revenus. On pense notamment aux enfants qui ne sont pas revenus. Ces images, nous les avons tous encore en tête.
C'est vrai, et c'était présent tout au long de cette journée, avec chaque otage qu'on a vu libéré. Souvent, la famille de cet otage a mentionné le fait qu'il reste encore ce travail à faire. Mais je pense que sur le plan humain, une des choses les plus merveilleuses que j'ai vécues avec cette famille extraordinaire qui s'est construite au long de ces deux dernières années, la grande famille des familles, c'était la capacité de solidarité. C'est-à-dire que les familles des otages décédés avaient la largesse sentimentale de partager le bonheur de ceux qui sont revenus, et vice-versa, ceux qui reviennent n'oublie pas les familles de ceux qui ne reviendront plus ou ne reviendront plus à vie. Et c'est pour moi un des symboles de cette fraternité exceptionnelle qui s'est faite dans cette organisation qui, je vous rappelle, est construite du premier jour par la société civile en Israël.
Qu'est-ce que vous savez déjà, quand saurons-nous peut-être ce qu'il en est de l'état de santé de ces hommes qui sont revenus ? Parce qu'on imagine que c'est aussi l'inquiétude des familles, il y a la joie, et puis 738 jours hein, dans des tunnels. Personne ne peut sortir indemne d'une épreuve de ce genre-là.
C'est clair. Alors, je ne suis évidemment pas je n'ai pas la capacité professionnelle de vous donner une réponse sérieuse, mais pour avoir en discuté plusieurs fois avec nos experts médicaux, le fait qu'on voit ces otages souriants, en relative bonne forme, etc., n'est pas forcément un reflet de leur état de santé véritable. Il y a beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Et il y a évidemment ce flot de bonheur de retrouver les siens après avoir été isolés pendant si longtemps, pendant deux ans, avec comme seule compagnie les geôliers qui n'étaient pas forcément très bienveillants. Et donc, souvent, les premiers jours sont un peu trompeurs. Et il va falloir des examens plus sérieux pour voir qu'est-ce qui manque. Parce que le fait qu'ils ont tous perdu du poids, mais certainement les gens du Hamas ont essayé de leur augmenter le poids ces derniers jours. Mais il ne s'agit pas que de calories, il faut évidemment des vitamines et des minéraux, etc. Et donc c'est un retour lent et surtout très délicat vers la normale. En plus, il y a souvent des blessures qui n'ont pas été traitées convenablement. Il y a des otages qui ont été libérés en novembre 23 et qui subissent encore des interventions chirurgicales à cause de blessures qui n'ont pas été convenablement traitées. Il y a des maladies que l'on ne voit pas forcément. Donc, clairement, c'est un long combat et nous n'avons même pas commencé à parler du côté psychologique, évidemment.
Daniel Scheck, avant de vous rendre à votre travail, qui, vous nous l'avez dit, n'est pas fini, ce qui était très impressionnant à voir sur la place des otages aujourd'hui également, c'était les très grands portraits de Donald Trump et même des casquettes rouges avec marqué « Trump, président de la paix ». Tout Israël aujourd'hui glorifie Donald Trump et on a même eu le sentiment que ça faisait un très grand Trump et un Benjamin Netanyahou plus petit. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez aussi eu sur cette place ?
Je vais vous donner une réponse personnelle, parce que je ne peux pas vous donner une réponse du Forum des otages, puisque ce sont des gens avec des opinions très diverses. Je pense que nous n'aurons pas vécu ce que nous avons vécu aujourd'hui sans l'intervention, disons-le, brutal de Donald Trump. Je pense qu'il a fallu un Donald Trump avec ses manières, on ne peut pas parler vraiment de méthodologie, mais ses manières un peu brutales pour pousser Benjamin Netanyahu dans un coin duquel il ne pouvait plus s'esquiver. Parce que cette négociation a été un peu bizarre. C'était des négociations entre deux protagonistes qui, pour des raisons différentes, évidemment, ne souhaitait pas véritablement conclure un accord. Et donc, il a fallu que la communauté internationale avec la France d'ailleurs. Il faut dire un mot pour le président Macron, qui a eu quelques initiatives qui, sans aucun doute, ont joué pour pousser Donald Trump à décider que maintenant ça suffit et il faut mettre un accord sur la table et tordre le bras de Benjamin Netanyahu suffisamment pour qu'il l'accepte.
Une toute dernière chose avant de rejoindre David Rigouleros qui nous attend, Daniel Scheck, juste une dernière chose, ce retour des otages, vous l'avez dit, c'est un soulagement, vous avez même parlé de la fraternité qui avait été celle des familles pendant ces deux ans. On sait aussi que pendant deux ans, la société israélienne s'est déchirée, s'est même fracturée. On voit bien à quel point c'est aussi un test pour la société israélienne, y compris que c'est le retour de ces otages. Est-ce que au moins ça participe à la cicatrisation de ce pays ou pas ? Ou il en faudra plus ?
Ça peut donner le coup d'envoi de la cicatrisation, mais il va falloir des enquêtes très très poussées pour que la société israélienne reprenne son souffle. Certaines certitudes qui ont porté cette société pendant des années ont été ébranlées. Et il va falloir vérifier très très de manière très très poussée qui emporte la responsabilité et comment on fait pour que cela ne se reproduise pas.
Merci Daniel Scheck, merci beaucoup de votre passage chez nous dans Un jour dans le monde. Bonsoir David Rigouleros.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Il y a cette phrase dans le discours de Donald Trump que j'ai retenue comme d'autres d'ailleurs, qui dit « l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient est là ». La paix touchée du doigt, dit-il. Est-ce que vous vous autorisez à croire ça ? Est-ce que vous la touchez du doigt, la paix, là ?
En tout cas, Donald Trump est parvenu à casser un cycle mortifère de deux ans, ce qui en soi est un exploit.
D'où la brutalité, d'ailleurs, dont on parlait d'un échec.
Oui, qui est paradoxal, mais qui a pu avoir une efficacité réelle, hein, effectivement, sur les protagonistes, les deux, d'ailleurs. Donc, la paix, c'est un horizon. En tout cas, là, ce qui est le premier résultat positif, c'est déjà le cessez-le-feu, qui était un préalable, un prérequis, pour d'abord la libération des otages, avec leur contrepartie palestinienne des prisons israéliennes, et puis le début d'une deuxième phase qui va être très compliquée. C'est la question du maintien, des tentatives pour le Hamas de se maintenir, alors qu'il est prévu son désarmement avec une gouvernance effectivement internationale de transition pour ouvrir des perspectives sur l'avenir. Qui pour l'instant était fermé.
Alors pour rester justement sur Trump, mais justement ses perspectives d'avenir, il y a cette image qu'on a un peu en tête au moment où Trump dit oui et qu'il signe. Il a le représentant américain d'un côté, il a Jared Kushner de l'autre. On a vraiment l'impression qu'ils sont quand même à deux doigts de lui tenir la main, vraiment, pour qu'il finisse par dire oui. Est-ce que vous le sentez, lui, disposé, capable, prêt, je ne sais pas quel terme il faut employer, à suivre la mise en place de ce plan de paix et effectivement d'être l'un des acteurs clés de la phase 2 ou pas ? Parce que vous l'avez dit, côté Hamas, ça va être compliqué. Il y a déjà un certain nombre de choses qui sont compliquées. Est-ce que du côté israélien, vous sentez un Netanyahou, puisqu'il y est obligé, disposé ?
Ah, il ne le fait pas forcément de gaieté de cœur, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Il sait tout ce qu'il doit à Donald Trump. Dans le soutien indéfectible qu'il lui a apporté jusqu'à présent, et je ne parle pas durant son premier mandat, mais depuis le 7 octobre, sans parler de la frappe sur les sites nucléaires iraniens. Donc, et d'ailleurs, le Premier ministre ne se prive pas de dire que Donald Trump est le meilleur ami d'Israël. Donc, il lui doit, évidemment, de pouvoir finaliser, de pouvoir rendre possible le plan dont il a formaté les paramètres.
La gouvernance, on en parlait, la gouvernance de Gaza, le Hamas semble-t-il y a renoncé, mais pas le désarmement. Donc est-ce que ça veut dire, est-ce que ça sous-entend de la part du Hamas que la lutte armée n'est pas finie ? Est-ce que c'est ça que ça sous-entend ?
Oui, mais le Hamas ne peut pas reconnaître d'abord qu'il a perdu la guerre, sur le plan strictement militaire, et le désarmement en tant que tel peut l'admettre, ça reviendrait à reconnaître une capitulation, ce qu'il ne peut pas faire. Donc ça va être un vrai problème, parce que de toute façon c'est un paramètre important, le désarmement c'est le point 6 et 13. D'ailleurs, il y a désarmement et démilitarisation, hein, ce sont deux choses complémentaires. Il y a la remise des armes et puis le démantèlement des infrastructures militaires, etc. Évidemment, ça va être compliqué. Et là, il y a un rôle à jouer de certains médiateurs qui va être important, notamment de pays comme le Qatar, la Turquie, qui est en mesure de peser, qui l'a déjà fait et qui est en mesure de peser. Il y aura une participation synergique de tous les acteurs pour que ça marche, parce que c'est indispensable.
Entre être pesé et participer à une force internationale, il y a quand même un long chemin, quand même. C'est pas la même chose.
Non. Alors, de toute façon, le formatage de cette force internationale, effectivement, qui a vocation à intégrer des contingents arabes, c'est aussi un sujet sensible. Parce que dans le plan, il y a l'angle mort, évidemment, c'est l'absence de représentation explicite des Palestiniens. Et évidemment, ça pose un problème sur le fond, mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter à ça, puisqu'il faut qu'il y ait une mise en place d'une gouvernance, alors qui prévoit un comité de technocrates apolitiques, mais sous tutelle, évidemment, internationale, et puis une force qui serait amenée à garantir la sécurité, et ça sera un défi, compte tenu du fait que le Hamas ne veut pas disparaître, alors qu'il est explicitement mentionné qu'il doit disparaître.
Mahmoud Abbas est à Sharm el-Cheikh, ce qui n'était pas gagné d'avance, mais il est effectivement à Sharm el-Cheikh. D'abord, est-ce que vraiment c'est un bon signe pour l'après ?
En tout cas, c'était une manière de reconnaître cette présence qui fait défaut dans les paramètres du plan, en termes explicites. Le président Macron a parlé avec lui, justement, et on sait que l'initiative franco-saoudienne a été importante, justement, pour maintenir la nécessité d'une présence palestinienne pour l'horizon, justement, qui est dessiné par le plan.
Est-ce que ça veut dire que, sans le plan franco-saoudien, peut-être qu'on n'en est pas là où nous sommes aujourd'hui, ou est-ce que le plan franco-saoudien est un processus qui désormais lui échappe, en fait, et la priorité est sur le plan Trump ? Notre part là-dedans, comment on la chiffre, hein ? Qu'est-ce qu'on en dit ?
Le plan Trump, il a en fait agrégé un certain nombre de variables et de facteurs qu'il a rendu convergent. Il y a effectivement l'élément de l'initiative française avec la déclaration à l'ONU sur la reconnaissance, et puis des ajustements d'ailleurs qui sont inhérents au desiderata de certains alliés du Golfe. Notamment sur le fait qu'il y avait des lignes rouges et qui ont été intégrées par le plan, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas d'expulsion de la population gazaoui, qu'il y ait une logique de reconstruction avec la population gazaoui, qu'il y ait très lointainement, mais tout de même, un horizon sur une autodétermination palestinienne, c'est le point 19. Donc on voit qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui se sont agrégés et qui se sont insérés dans le plan Trump.
Mais on prend notre place réellement à partir de maintenant et de la phase 2, ou est-ce qu'on fait un pas de côté au moment de la phase 2, en fait ?
On aura un rôle, de toute façon. Les Européens vont se proposent, d'ailleurs, il y a des opérations européennes qui existent déjà, sur la surveillance des frontières, sur la formation des forces de sécurité. Donald Trump aura besoin de la bonne volonté de tous les acteurs, de toute façon. Il y a la question financière avec les pays du Golfe, il y a la question, effectivement, de la formation de forces de police palestiniennes, il y a la question de la stabilisation. Donc, il est évident que tout le monde aura un rôle à jouer, mais le grand ordonnateur du processus, c'est Donald Trump.
Il n'y a pas Benjamin Netanyahou à Sharm el-Cheikh, il a prétexté les fêtes juives qui commencent. Est-ce que c'est lui qui prétexte les fêtes juives qui commencent, ou est-ce qu'on n'a pas envie de toute façon de le voir à Sharm el-Cheikh, et donc tout le monde est bien content de ce prétexte-là, en fait, 50-50.
Il se dit que la Turquie n'était pas favorable à la présence de Benjamin Netanyahou, a fortiori avec l'absence du Hamas, qui avait dit que de toute façon il ne serait pas là.
Ni le Hamas, ni l'Iran d'ailleurs.
Et ni l'Iran qui a été invité formellement par le président américain. Donc, effectivement, le paradoxe de la conférence en question, c'est que les principaux intéressés sont absents, mais en même temps, vu l'ampleur de la scénographie justement de la conférence, c'est pour montrer qu'il y a un consensus international très large qui valide les paramètres du plan de Donald Trump.
C'est au moment où on se parle, David Rigouleros, que les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et la Turquie signent une déclaration sur Gaza. Donc, au moment où on se parle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils signent très exactement ? Enfin, je veux dire, ils signent pour dire on est parti et on avance. Ils mettent leur signature sous un document qui dit quoi ? On le sait, ça, ou pas ?
Qui normativise le cessez-le-feu et les étapes à venir. Puisque l'intitulé de la conférence, enfin, du sommet, c'est un sommet pour la paix. Donc, avec toute l'emphase qui va avec le caractère hyperbolique des expressions de Donald Trump, mais effectivement ça a vocation à ne pas être qu'un cessez-le-feu. Il l'a dit, la guerre est finie, il y a un cessez-le-feu, mais l'horizon c'est un horizon de paix, parce que Donald Trump se projette déjà, comme durant son premier mandat, il a le rêve d'une pacification régionale avec une logique liée à la dynamique d'Abraham, qui normaliserait et qui rendrait possible un développement régional. Il aime pas la guerre, il faut lui reconnaître ça. Et donc, il est dans une logique de deal maker pour les affaires. Et il considère qu'il a une opportunité effectivement inédite de parvenir à ce que d'autres n'ont pas réussi à faire.
Allez, on n'est qu'au début, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous aurez l'occasion de revenir nous en parler. David Rigoulet-Rose, merci beaucoup de votre passage chez nous. Dans un instant, c'est Le Monde à l'endroit avec Frédéric Say. C'est la suite, ce sera Sous les radars de Guillaume Audin et la BO du Monde aussi de Cyril Sauvageau. Et c'est juste après ça.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be you? And I have started.
Elle est grenado-britannique, elle est née à Londres. Something You Said est dans la playlist de France Inter. Le Monde à l'endroit, c'est Frédéric Saïs.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Et une question simple, Frédéric, peut-on gouverner sans budget ?
Il est au pouvoir et il compte bien aller au bout de son mandat en 2027, malgré d'immenses difficultés à faire voter son budget. Je vous parle bien sûr de Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, au cas où vous pensiez à quelqu'un d'autre.
Pas du tout.
Ça fait 3 ans que ça dure en Espagne, 3 ans déjà que la coalition de gauche au pouvoir n'arrive pas à se mettre d'accord sur les priorités financières. Alors, faute de mieux, le gouvernement reconduit le budget de l'année précédente à l'identique. La différence avec la France, c'est qu'en Espagne, ça ne provoque aucun psychodrame. Certes, l'opposition de droite proteste, mais le pays a célébré hier sa fête nationale sans remous, sans angoisse face à ce budget introuvable. Au bout de 3 ans, en fait, c'est presque la routine. La ministre des Finances se dit dans un état de calme absolu, je cite, les taux d'intérêt de la dette espagnole sont stables et les agences de notation sont confiantes.
Donc, l'Espagne continue de tourner malgré l'absence de loi de finances. Ça peut nous inspirer, nous, en France, non ?
Alors, c'est vrai que c'est une pensée tentante, Fabienne. Il suffirait de se calmer, après tout, de dédramatiser toutes ces histoires de budget et ça irait mieux, comme chez nos voisins espagnols. Évidemment, la situation n'est pas tout à fait transposable pour 2 raisons principales. D'abord, si l'Espagne s'affiche aussi sereine, c'est parce que son économie est en grande forme, croissance à 3% l'an dernier, déficit en baisse, la dette inférieure inférieure à celle de la France. Bref, les indicateurs sont au vert. Le gouvernement espagnol peut donc se permettre des embardées politiques sans que cela vienne abîmer la confiance des marchés. Pour résumer, l'Espagne est en croissance et nous, nous sommes sous surveillance. Et puis, l'autre différence, c'est que le Premier ministre espagnol, lui, ne joue pas sa survie politique toutes les 48 heures. Contrairement à Sébastien Lecornu, Pedro Sanchez peut s'appuyer sur une majorité de gauche certes turbulente, certes relative, mais qui à la fin revient au barcail, c'est-à-dire qu'elle va se disputer, se déchirer, mais jamais au point de faire tomber le gouvernement. Pourquoi ? Eh bien parce que cela ouvrirait la porte à un retour de la droite au pouvoir.
Mais cette absence de budget, Frédéric, c'est quand même un aveu de faiblesse, non ?
Oui, c'est vrai, le Premier ministre espagnol préfère reconduire le budget de l'année dernière pour éviter un vote de ses propres députés. Il craint les déchirements au sein de sa majorité. Par exemple, son allié de la gauche radicale, Podemos, dénonce l'augmentation des dépenses militaires. Un autre parti allié, celui des indépendantistes catalans, fait monter les enchères. En échange d'un soutien au budget, il réclame des amnisties judiciaires pour certains cadres. Alors plutôt que de prendre le risque d'être isolé, Pedro Sanchez préfère donc replâtrer les finances, si besoin, en réorientant des subventions européennes par décret. Méthode totalement contraire à la Constitution espagnole. Mais le problème est même plus profond que cela. Le vote du budget, c'est en fait évidemment le moment des choix forts. Comment financer le virage de l'intelligence artificielle ? Comment financer la transition écologique ? Mais si vous reconduisez bêtement les dépenses d'une année sur l'autre, alors vous construisez un budget à l'obsolescence programmée.
Merci beaucoup Frédéric Seuil, c'est Le Monde à l'endroit, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Qu'est-ce qu'on trouve sous les radars de l'info internationale ? Eh bien, Guillaume Audat.
Past 5 o'clock, massive, massive amounts of distress and frustration from many
communities. Et nous sommes d'abord en Afrique du Sud, Guillaume. Johannesburg est à sec. Dans plusieurs quartiers de la métropole, plus une seule goutte ne sort des robinets d'eau. Et le phénomène est loin d'être réglé.
Voilà, et c'est ce que dit ce présentateur qu'on entend, présentateur d'une radio locale. Il parle d'un état de frustration et de désespoir massif. Massif, il le répète à deux reprises ce mot, désespoir et frustration au sein de la population. D'après certaines estimations, près de 60% des habitants de Johannesburg sont impactés par ces coupures d'eau soudaines, géantes et prolongées. 60%, ça représente environ 3,5 millions d'habitants, ce qui est considérable. Le réseau est dans un état catastrophique, il est vétuste, il est mal entretenu, mais surtout, il n'est plus adapté à cette ville qui grandit à toute allure et où la demande explose. Ça fait 2 ans en réalité que les problèmes ont vraiment commencé, que les autorités ont laissé filer. La capitale économique sud-africaine vit désormais au rythme des camions-citernes. Ça laisse à désirer. En plus de la vie quotidienne, cela impacte énormément le business sur place. 3 milliards d'euros ont été promis par l'État. Il faudra les débloquer rapidement parce que la coupe est pleine. Et si vous m'autorisez l'image, une seule goutte encore suffira pour faire déborder le vase.
Christopher Luxon's government just went full noise Trump. By taking a massive dump on climate action.
La Nouvelle-Zélande en mode Trump, c'est ce que nous dit cette militante de Greenpeace. Wellington recule de moitié sur ses ambitions de réduction de méthane, un gaz nettement plus nocif que le CO2.
Voilà, et vous savez d'où vient le méthane, en tout cas une partie, voilà, c'est un gaz produit par les ruminants, les vaches, les moutons, les chèvres. Pour le dire autrement, c'est une émanation digestive, ça sent très mauvais. Je pense que là, vous avez tous saisi de quoi il s'agit. Mais en plus d'être désagréable au nez, le méthane est extrêmement polluant. En Nouvelle-Zélande, près de la moitié des émissions de ce gaz vient du bétail. Et donc, lorsqu'il a été question pour Wellington de se conformer aux accords de Paris sur le climat, c'est toute la filière agricole qui s'est levée comme un seul homme, vent debout, c'est le cas de le dire, contre des mesures qui menaçaient les revenus paysans et la survie de nombreuses fermes. Les agriculteurs néo-zélandais représentent à eux seuls 80% des exportations de leur pays. Ils n'ont donc pas eu de mal à être entendus. Les écolos parlent de leur côté de déni climatique total. Mais c'est peut-être plutôt vers les usines à gaz, les vraies avec des cheminées et tout ça, qu'il faudrait concentrer le tir avant de taper le monde rural. Vous pensiez que l'amour est dans le pré ? En Nouvelle-Zélande, c'est pas vrai.
En Corée du Sud, Guillaume, une erreur numérique à plusieurs centaines de millions d'euros, mais surtout, et c'est confirmé, une grande partie des archives gouvernementales a définitivement disparu.
Voilà, il s'agit d'une erreur de stockage dans un seul et même cloud. Vous savez, ces nuages numériques, en fait, des serveurs où l'on rassemble ces fichiers, des photos, des notes, des travaux. On en a tous un, plus ou moins important. Séoul également, mais à l'échelle d'un État. Sauf qu'il y a 2 semaines, un immense incendie a ravagé le centre de données gouvernementales et la Bévue, monumentale et que les fonctionnaires n'avaient pas prévu de sauvegarde. 858 teraoctets sont partis en fumée, 8 ans de travail, une partie de la mémoire administrative de Corée du Sud s'est évaporée. Ça, c'est une chose. L'autre est que de nombreuses administrations sont encore à l'arrêt. Il faudra 2 semaines pour tout redémarrer dans ce pays ultra numérisé qui offre une leçon à notre planète connectée. Très simple, sauvegardez vos données.
Voilà, et n'oubliez pas, votre mot de passe ne doit jamais être 1, 2, 3, 4, 5. Merci Guillaume, à demain. Le lundi, c'est Cyril Sauvageau qui écoute la musique contenue dans les plis de la planète, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Cyril, la BO du monde aux États-Unis, où les musiciens se mobilisent contre la politique migratoire de Donald Trump. Dernier exemple en date, cette chanson d'un artiste country qui provoque la colère des MAGA.
Il a suffi d'un simple extrait d'une minute diffusé sur Instagram pour mettre le feu aux poudres. Il faut dire que le chanteur en question est une star montante de la country, Zach Bryan, 29 ans, ancien soldat de l'US Navy, très apprécié du public blanc et conservateur. Le morceau inédit s'intitule Bad News. Il écrit de façon très réaliste un raid de la police de l'immigration. Ice va venir défoncer ta porte, les enfants sont tous effrayés. Voilà ce que raconte ce texte qui déplaît fortement au camp MAGA et à la Maison Blanche. Une chanson irrespectueuse selon la ministre de l'Intérieur de Donald Trump qui se réjouit, je cite, de n'avoir jamais donné un centime à Zach Bryan. Depuis quelques jours, les médias pro-Trump sont en boucle contre le chanteur. Zach Bryan, sur la défensive, en est réduit à se justifier. Il n'a pas voulu prendre position, dit-il, et promet que sa chanson, une fois dévoilé en entier, critiquera les radicaux des deux bords, de droite comme de gauche.
Et si cette chanson fait toute une histoire, Cyril, c'est parce qu'elle tranche avec les autres prises de parole récentes sur le même thème.
Oui, jusque-là, ce sont surtout des anti-Trump très marqués à gauche qui avaient fait parler d'eux contre les raids anti-migrants. Exemple, le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, toujours aussi engagé avec ce single paru cet été. Une vidéo où défilent les visages d'immigrés latinos menacés d'expulsion. On y voit aussi l'activiste amérindien Léonard Peltier, gracié par Joe Biden en janvier, après un demi-siècle derrière les barreaux.
My name is Leonard Peltier. No human being is illegal.
Aucun humain n'est illégal, ce sont les mots de Léonard Peltier. Le titre de Tom Morello coche toutes les cases, mais il s'adresse, on va dire, à un public déjà convaincu, la frange militante de la société américaine, celle qui a manifesté à Los Angeles, notamment contre les raids anti-migrants. Elle était beaucoup moins attendue sur ce registre, la jeune Californienne Olivia Rodrigo. Pas vraiment politisée jusqu'ici, fait partie de ceux qui ont décidé de prendre la parole. Pour Olivia Rodrigo elle-même, descendante d'une famille venue des Philippines, Los Angeles n'existerait pas sans ses immigrés.
Fuck it, it's fine.
Et depuis plusieurs mois, Cyril, la communauté latino s'est particulièrement mobilisée avec en première ligne celui qui est aujourd'hui la plus grande star latine aux États-Unis.
J'ai nommé Bad Bunny, le rappeur phénomène originaire de Porto Rico.
Well, there it is. It's official. Puerto Rico's finest Bad Bunny will be the Apple Music Super Bowl 60 halftime show.
Consécration ultime, Bad Bunny vient d'être choisi pour se produire à la mi-temps du prochain Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Il succédera, entre autres, à Eminem, Beyoncé, Kendrick Lamar, un choix qui ne plaît pas beaucoup au camp Trump, compte tenu des prises de parole du chanteur sur la chasse aux latinos.
Hey, hey, hey. 4 de julio,
Bad Bunny a décidé d'écourter sa nouvelle tournée américaine. Pourquoi ? Eh bien pour éviter que son public se retrouve à la merci de l'ICE, la police anti-immigration. D'après lui, ses concerts pourraient constituer des cibles de choix. Et ce sera le cas aussi lors du Super Bowl. La ministre de l'Intérieur, Christine Homme, annonce d'ores et déjà une présence massive des policiers aux abords du stade. Ceux qui viendront ce jour-là voir Bad Bunny ont tout intérêt, dit-elle, à être de bons citoyens respectueux de la loi.
Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup. À lundi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Avec Florence Paracuelos et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, ce soir à vous la parole. C'est le thème de la journée sur France Inter. Et comme on le fait tous les soirs au téléphone sonne, moi je ne fais rien. Je ne
D'accord, ben, moi je voilà. bosse. Je commence voilà. avec Amy qui nous raconte. Entre la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai travaillé dans 5 lieux de travail différents, avec 5 équipes différentes. Ce week-end, soirée entre amis et puis une fête de famille. Ce qui me frappe, c'est l'indifférence des gens vis-à-vis de la situation politique. Si on lance le sujet, la première réaction, c'est une blague. Vous saviez que le corps nu est l'anarchie. De reculons.
Ah.
J'ai vérifié, oui, c'est vrai. Si on lance un débat, les amis habituellement animés désertent pour aller faire autre chose. Claudio, je suis absolument écœuré du monde politique. Aucun projet de société à long terme, une langue de bois, des petits arrangements entre amis, cette sensation désagréable d'être dirigé par des profiteurs. Et puis Alexis, la crise actuelle en France n'est pas qu'un spectacle politique. Hôpitaux saturés, enseignement épuisé, inégalité sociale, on ne parle pas assez de ça.
0145 24 7000 pour dialoguer avec nous. C'est vous les rois ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. À tout